Radio Campus présente Lille 1 Info. Comme chaque mercredi à 17h30, vous saurez tout sur l'Université de Lille 1. Aujourd'hui, nous allons parler des pôles de compétitivité avec M. André Tordeux, qui est chargé de mission à la DIRVED. Monsieur Tordeux, bonjour.
Bonjour.
Donc la DIRVED, D-I-R-V-E-D, ça veut dire ?
Direction de la recherche, de la valorisation et des études doctorales.
Donc, ces missions fondamentales, bon, c'est la recherche, la valorisation des études doctorales. Et à l'intérieur de ces missions, il y a des pôles de compétitivité dont vous avez la charge, on peut dire ?
Alors, ce serait excessif de dire cela. Les pôles de compétitivité ont leur vie à l'extérieur de l'université. Et ma mission au sein de l'université, c'est justement d'établir des relations avec ces pôles de compétitivité.
Donc des passerelles ?
Des passerelles, une animation, des interactions, c'est là tout l'enjeu en quelque sorte de ces pôles.
Quand on dit compétitivité, c'est un mot à la mode ?
C'est à la mode, je dirais c'est heureusement à la mode, puisque aujourd'hui la compétition est internationale. Une économie qui se développe est une économie qui a des atouts. On parle davantage concurrentiel ou davantage compétitif, et les pôles de compétitivité sont là justement pour, dans certains domaines d'activité, accélérer l'acquisition de facteurs de compétitivité.
Alors, ces pôles existent depuis combien d'années ?
Alors, c'est une décision qui remonte à peu près 4 ans. Une année pour les structurer, 3 années de développement, et ces pôles entrent, on va dire, dans une deuxième phase déjà de leur vie.
L'idée, c'est de susciter l'initiative dans chacun de ces pôles ?
C'est plus que ça. C'est une croyance, mais très partagée, que l'interaction entre les milieux de la recherche et les milieux industriels est... génératrice d'innovation, de compétitivité. On va souvent entendre parler de ce terme. Et très clairement, l'intention des pouvoirs publics, quand ils donnent naissance à ces pôles de compétitivité, c'est de pouvoir donner un coup d'accélérateur à l'activité économique et à l'innovation.
Alors, ces pôles de compétitivité, on les retrouve partout en France ou c'est uniquement dans la région ?
On va en retrouver alors déjà partout dans le monde, puisque au départ, c'est plutôt dans les pays, l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis, on parle de clusters, que ces systèmes d'assemblage en quelque sorte de compétences scientifiques et industrielles ont montré leur qualité. Et la France a un peu suivi ce mouvement. Et de savoir si c'est spécifique à la région Nord-Pas-de-Calais, dans la France, bien sûr que pas, puisque dans toutes les régions, on va trouver des pôles de compétitivité de différentes tailles, en nombre différent. Et pour ce qui est de notre région, on peut se flatter d'avoir 6 pôles de compétitivité, ce qui est exceptionnel, puisque la plupart des régions, en dehors de la région parisienne, ont un pôle, 2 pôles, et c'est donc une situation favorable.
Donc Lille 1 s'intéresse plus particulièrement à ces 6 pôles ?
Alors, il s'y intéresse dès la genèse des pôles, puisque dans le principe même d'un pôle de compétitivité, les acteurs académiques sont impliqués, sont dans la gouvernance des pôles, et bien entendu, Lille 1 tient sa place.
Alors, à la gouvernance, c'est pas à la direction, hein. Il y a une...
Oui, alors la gouvernance est aussi un terme à la mode. Ce qui est clair, c'est que on s'efforce de créer des convergences de vision, des enthousiasmes collectifs, des ambitions collectives, et il ne serait pas cohérent que les universitaires ne participent pas en quelque sorte à cette dynamique. Et c'est pour cela que, en ce qui concerne la gouvernance, donc les assemblées, les lieux de rencontre, les universitaires sont très présents. Quand vous parlez de direction des pôles de compétitivité, il va s'agir de structures plus ramassées. C'est le conseil d'administration, c'est un bureau. dans lequel on va trouver, là encore, des acteurs qui représentent le monde académique et des acteurs qui représentent les établissements. Vous me posiez la question de l'engagement de l'ILIN. Je peux dire que l'ILIN est représenté d'une manière très, très concrète dans chaque instance de gouvernance et de direction. Au meilleur niveau, puisque c'est le président de l'établissement ou un vice-président qui représente donc les intérêts de l'université et les ambitions de l'université dans chacun de ces 6 pôles de compétitivité.
Et chacun de, ces six pôles donc a pour président un industriel.
Oui, c'est le pouvoir public qui au départ a défini cela de sorte qu'il n'y ait pas de dérive, puisque l'objectif principal est quand même économique, hein, c'est le développement des territoires. En conséquence, il a semblé que c'était une garantie que la finalité ne soit pas déviée par rapport à son objectif initial.
Donc on va peut-être préciser maintenant chaque pôle, sa spécificité.
Volontiers.
Je vous en prie.
Alors, puisqu'il y a 6 pôles de compétitivité, il y a là, je dirais, de quoi parler longtemps. Je suis embarrassé à choisir par lequel il faut commencer.
On va commencer, allez. Moi, je vais vous donner les premiers. Alors, textile, par exemple.
Textile. Alors, c'est un pôle qui ne doit pas surprendre dans notre région, qui a encore la réputation d'être une région textile. Et les industriels du textile ont compris que leur avenir était dans les nouvelles technologies, les textiles techniques. Et tout naturellement, il y a ici une grande dynamique de modernisation des entreprises, de leurs outils, mais surtout de leurs produits, de sorte que l'industrie de la région soit au niveau mondial détentrice de leadership sur un certain nombre de produits que les pôles sont là pour renforcer, pour multiplier. Alors les exemples sont nombreux, mais par exemple l'utilisation du polyuréthane pour produire des câbles extrêmement légers et de très grande résistance, c'est un produit nouveau qu'une entreprise de la région développe au niveau mondial et qui nous donne une distinction tout à fait exceptionnelle. Ces câbles de polyuréthane, on va les retrouver sur des grues avec des résistances plus fortes que les câbles d'acier traditionnels auxquels on est habitué.
Voilà donc la région qui reprend la main sur le textile haut niveau, je veux dire.
Tout à fait, avec des applications dans des domaines extrêmement différents, puisque le textile est présent aussi bien dans le spatial, aussi bien dans les produits techniques qui vont servir par exemple à sécuriser des process industriels. On va trouver des applications extrêmement nombreuses.
C'est vrai qu'il ne faut plus penser le textile uniquement comme moyen d'habillement.
Alors, l'évolution est grande, mais quand même un petit mot sur l'habillement. C'est qu'en fait, les habits aujourd'hui deviennent des habits appareillés. C'est-à-dire que, vous ne vous étonnerez pas d'apprendre, si vous ne le savez déjà, qu'une société comme Apple est déjà en contrat avec des sociétés de sportswear pour produire des vêtements qui intègrent des systèmes qui contrôlent la tension artérielle, les pulsations cardiaques, la température. Et il est bien évident que nos industriels du textile doivent se mobiliser par rapport à ces évolutions. Et dès aujourd'hui, les blousons qui intègrent des antennes pour capter la radio et le téléphone mobile qui sera intégré dans le vêtement, ce sont des choses sur lesquelles les industriels travaillent.
On va bientôt arriver à l'an 2000 tel qu'on l'imaginait dans les années 70.
Ça va ressembler à l'idée qu'on se faisait de l'an 2000, oui, oui.
Autre pôle, nutrition et santé, longévité. Alors effectivement, on a constaté que dans nos pays occidentaux, la longévité croissait. C'est pas forcément le cas de tous les pays. Et dans ce cas, nous avons donc des problématiques spécifiques.
Alors c'est vrai. Et quelque part dans ce pôle, je peux vous dire qu'il y a eu un vrai débat pour mettre la dimension longévité, qui n'était pas évidente au départ. Et il a fallu argumenter avec l'argument que vous développez, c'est que la population du 3e et 4e âge devenant tellement importante pose des problèmes nouveaux qui ne sont pas que des problèmes de santé, qui sont des problèmes de mode de vie, qui sont des problèmes d'animation culturelle, mais qui sont aussi quand même des problèmes de santé. Et donc, quand on sait que la nutrition peut avoir des répercussions positives et négatives sur la santé. L'obésité en est un très bon exemple, et le diabète aussi. Vous ne vous étonnerez pas qu'on ait rassemblé ces trois dimensions de la nutrition, de la santé et de la longévité dans un pôle qui a aussi vocation à donner à la région une lisibilité nationale, sans doute, mais aussi internationale.
Donc ce pôle est un pôle forcément d'avenir ?
C'est un pôle qui se développe très vite. Mmh. Je vais tout de suite illustrer, tout à l'heure je vous ai dit que à l'origine des pôles de compétitivité, il y avait l'ambition de donner à la région plus de vecteurs de développement et plus d'attractivité. Le pôle NSL, comme on dit, Nutrition, Santé, Longévité, est un bon exemple puisqu'il fait prendre conscience des ressources de la région, par exemple en matière de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Qui sait que nous sommes le premier pôle français de recherche intégrée qui va de la recherche la plus fondamentale à la recherche la plus appliquée au niveau clinique sur la maladie d'Alzheimer. Mmh. Il se trouve que les initiatives, la lisibilité que peuvent donner des programmes qui sont soutenus par les pôles de compétitivité attirent l'attention et font prendre conscience aux acteurs eux-mêmes qu'ils pèsent plus lourd qu'ils ne paraissaient au départ à chacun. Tout simplement parce qu'un pôle de compétitivité a vocation à rassembler, à conjuguer, et par conséquent, il fait prendre conscience des masses, il fait prendre conscience des dynamiques.
Alors, en ce qui concerne la santé, il faut quand même dire que la région est un peu à la traîne, sinon la dernière des régions de France en termes de santé publique.
Alors, vous avez raison en ce qui concerne l'état de santé de la population. Voilà. C'est évident qu'on a des tristes records. Mmh. Et ce sont des premiers rangs qu'on voudrait bien ne pas connaître. Maintenant, le CHRU est un des principaux centres hospitaliers de France, avec une réputation qui, là encore, va croissante. Mmh. Et je peux vous assurer que si la population vit une situation qui n'est pas enviable pour certaines de ces catégories, en matière de recherche sur la santé, nous sommes, dans cette région-ci, en avance dans beaucoup de domaines.
Voilà. Donc, il faut espérer que la population globale de la région en tirera bénéfice très rapidement.
Je vais rapporter ce vœu en expliquant qu'il ne faut pas travailler que pour la gloire internationale, mais aussi pour la santé de la population locale.
Merci beaucoup, Monsieur Tordet. Donc, on va passer à un autre volet, le transport ferroviaire. Alors, c'est vrai que beaucoup nous envient nos voies ferrées, d'une manière générale. Notre train, quand il n'est pas en grève, c'est un train extraordinaire. Enfin, la SNCF et puis les gens qui y travaillent sont des gens extraordinaires. Enfin, quand on va dans d'autres pays, on voit vraiment la différence. Donc, ce transport ferroviaire... lui aussi a des objectifs de rentabilité, de nouvelles technologies, d'aller toujours plus vite, toujours plus loin.
Alors, vous avez commencé par rappeler une réputation pour la France. Elle est pour la région, parce que nous avons dans cette région des entreprises fameuses, Alstom, Bombardier, qui sont des acteurs importants industriels qui ont une réputation internationale. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas se reposer sur les lauriers qui, notamment à travers le TGV, nous donnent déjà une réputation internationale. Tout le monde évolue. Les Japonais, les Allemands, les Italiens sont des compétiteurs importants dans ce domaine et personne ne discutera l'intérêt qu'il y a d'aller encore plus loin. Alors vous dites aller plus vite, oui, y aller plus vite. Parce que ça permet de raccourcir les distances, ça permet de ne pas se laisser distancer par ceux qui prépare des trains qui vont encore plus vite, à sustentation magnétique par exemple. Mais il n'y a pas que dans ce domaine, et en particulier, et ça va bien parler, les tramways qui sont revenus de mode, mm-hmm. mais qui sont revenus de mode avec des systèmes extrêmement modernisés, très sophistiqués, très sécurisés.
On parle d'un tramway entre Lens et Douai, Lille.
On en parle, mais ça pourrait bien se faire, parce que vous imaginez que derrière ces projets de pôle, les collectivités territoriales sont très mobilisées, veulent, j'allais dire, prendre le train en marche. Ça serait leur faire injure, puisqu'elles étaient au départ les premières instigatrices, en quelque sorte, de ces projets. Mais il serait incohérent qu'il n'y ait pas une politique d'urbanisation et dynamisation du territoire qui ne soit pas en rapport avec les pôles de compétitivité. Et donc, oui, ce type de projet et d'autres projets qui vont concerner le littoral, qui se sent parfois un peu éloigné de la métropole lilloise, vont bientôt donner à tout le monde une vision plus concrète, précise, de ce qu'un pôle de compétitivité peut apporter, je dirais, accéléré.
Alors, quatrième pôle, le pôle industrie du commerce. Alors, on sait ce que c'est que l'industrie, on sait ce que c'est le commerce, l'industrie du commerce.
Industrie du commerce, c'est toujours dans l'esprit de conjuguer des ressources qui, en se mariant, donnent des résultats plus importants. Ça va parler à tout le monde. Si j'évoque la place omniprésente aujourd'hui du téléphone portable qui devient un ordinateur portable et qui devient un outil intelligent qui communique avec tout ce que l'on veut et qui est en train de communiquer avec les caisses des hypermarchés et avec bientôt et déjà expérimentalement les produits qui sont dans les linéaires. Ce produit fantastique qu'est le téléphone mobile devient un instrument intelligent qui bouleverse les pratiques de consommation, le comportement des consommateurs, puisque j'illustre à travers deux points. Vous pouvez déjà sur des appareils expérimentaux, mais qui fonctionnent en Corée, donc là-dessus on n'est pas en avance, visualiser où vous êtes, où se trouve le rayon que vous cherchez, quel est le prix ou quelle est la promotion. C'est-à-dire que votre ordinateur devient, votre téléphone devient un GPS, un micro-GPS qui vous permet de vous promener dans l'hypermarché pour trouver ce que vous recherchez.
Alors, au-delà de ça, dans certains pays, par exemple en Chine, on peut payer avec son téléphone portable. Au Japon, on peut quasiment tout faire avec son téléphone portable. Donc, on a finalement du retard en France.
Alors j'ai du mal à le dire, mais quelque part dans ce registre-là, il y a des gens qui ont pris un peu d'avance. On sait que notamment le téléphone portable, il est surtout fabriqué en Asie. Et la Chine est un pays extrêmement performant en la matière, même quand il s'agit de travailler pour des sociétés européennes comme Ericsson, Philips et autres. Et c'est vrai que dans ce domaine, il y a, je dirais, une nécessité de développer de nouvelles applications pour reprendre la main et ne pas se laisser déposséder d'un secteur d'activité qui est tout à fait important.
Alors, c'est un peu la folie, hein, mais par exemple au Japon, quand il y a un défilé de mode, les clients qui sont dans la salle peuvent déjà commander le vêtement qu'ils voient porter par les mannequins.
Tout à fait.
C'est un exemple.
C'est aussi rapide que ça. Et puisque le téléphone devient un agent intelligent, il faut considérer, on appelle ça l'intelligence. Je suis en train de perdre le terme, mais il faut considérer que le pilote d'une voiture, avec son GPS, avec son appareil radio, peut savoir tout ce qui se passe autour, y compris les embouteillages, et puis changer d'itinéraire. Eh bien, ce qu'on est en train de développer ici, c'est finalement d'assister l'individu en dehors de son véhicule pour qu'il puisse être conseillé, mis en garde, guidé et assisté finalement dans des situations difficiles où il a parfois des décisions délicates à prendre. Et donc, ça devient véritablement un assistant informatisé et intelligent, un agent intelligent qui ne va bientôt plus nous quitter.
C'est vrai que il y a énormément de gadgets. Parmi ceux-ci, certains réussissent. C'est ceux qui deviennent utiles et qui sont agréés et voire internationalisés dans leurs normes.
Alors on peut dire ça, c'est-à-dire que la vraie sanction d'une innovation, et d'ailleurs c'est ce qui fait, c'est ce qui donne à un produit, à un service, son statut d'innovation, c'est d'être acheté, c'est-à-dire de répondre à des besoins. Et par conséquent, le marché ou le consommateur ou l'entreprise quand elle achète, c'est elle qui définit la valeur du produit qu'on lui offre. Alors il y a quand même à nuancer cela parce que beaucoup d'innovations aujourd'hui sont des innovations qui n'étaient pas demandées. Ce sont des innovations qui sont reçues, qui sont acceptées, qui sont adoptées. Et donc la difficulté quand on veut être innovant, et c'est tout le défi des pôles de compétitivité, c'est moins de répondre à une demande que de pouvoir faire évoluer la demande, avec la responsabilité qui accompagne cette ambition-là.
Alors, pour votre information, même nos radios, comme Radio Campus, sont concernées, puisque nous allons devoir, j'allais dire, émettre bientôt, en plus, en numérique. Hein.
Tout à fait.
Donc, nouvelle technologie, les appareils de réception n'existent pas encore en France, le marché n'existe pas, mais par contre, nous devrons suivre cette évolution pour rester encore quelque part sur les ondes dans les années 2010-2020.
Voilà. Et dès à présent, par exemple, les industriels travaillent sur des équipements dans l'automobile qui, en même temps qu'ils vont recevoir la radio, vont recevoir des images, vont recevoir des informations, puisque cette nouvelle norme va permettre de transmettre beaucoup plus d'informations, et sans qu'il s'agisse de transformer la radio en télévision, les signaux radio seront accompagnés d'informations qui vont permettre de visualiser la personne qui parle derrière son micro, ou d'avoir une documentation qui va venir appuyer le propos qui sera tenu à la radio. Alors quand je dis que c'est prévu dans les voitures, a fortiori au domicile des particuliers.
Cinquième pôle, on va parler de matériaux d'emballage et des arts de la table.
Oui, alors ça c'est un pôle, je dirais, qui est un peu plus énigmatique, hein, textile, commerce, tout le monde voit bien. Les pôles ont toujours une justification qui est celle d'être enracinés dans le territoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une réputation, s'il n'y a pas une réalité industrielle, s'il n'y a pas une réalité scientifique, le pôle n'existe pas. En tout cas, il n'aurait pas été autorisé, si je puis dire, par ceux qui le financent. Et dans le cas présent, du côté de Arc-Saint-Omer, il y a des activités concernant l'art de la table qui faisait la réputation de la région, qui, comme tous les secteurs d'activité, ont l'ambition de se moderniser et d'innover, et qui ont jugé bon d'être en quelque sorte demandeurs d'une dynamique de pôle de compétitivité pour renforcer leur innovation, leur compétitivité, et s'est créé autour de deux ou trois grosses entreprises une dynamique qui s'est étoffée avec le temps. Tout à l'heure, je disais qu'il nous avions 4 années d'expérience, et par exemple, aujourd'hui, ce secteur d'activité travaille sur les matériaux durables, ce qui n'était pas dans la thématique initiale. Aujourd'hui, ce secteur d'activité travaille énormément, en relation d'ailleurs avec le pôle industrie du commerce, sur l'intégration de ce qu'on appelle des puces RFID, qui sont des puces intelligentes qui vont être intégrées dans les emballages des produits, et qui permettront aux produits d'émettre des informations, leur prix peut-être, mais aussi qu'ils comportent de l'arachide et que ça ne convient pas aux gens qui ont une allergie à l'arachide. Autrement dit, il y a dès à présent une évolution extraordinaire au niveau de ces produits d'usage domestique grand public qui vont dans un sens, je dirais, de renforcer en quelque sorte leur utilité avec, je viens de le signaler, une intelligence avec le pôle Uptex, textile, industrie du commerce. Vous voyez, il y a une combinatoire qui est en train de se développer et qui est tout à fait intéressante.
Alors, vous parliez d'Arc il y a quelques instants. Est-ce que vous avez des nouvelles de la cristallerie ?
Pas en particulier, parce que je n'ai pas de mission par rapport à cette entreprise. Ce que je sais, c'est qu'elle est engagée dans un programme de développement, de modernisation, d'élargissement de son portefeuille d'activité. Et donc la seule chose que je peux dire, mais j'en parle sans savoir à travers des informations que je reçois, c'est qu'il y a une volonté de ne pas renoncer et d'abdiquer face à la concurrence internationale et à certains aspects sauvages de concurrence par les prix. Je vais prendre un exemple qui va parler à beaucoup de ceux qui nous écoutent. C'est que certains verres que nous achetons en grande surface fabriqués en Chine, comme beaucoup d'autres choses, après 3 ou 4 lavages deviennent très ternes. Et il est bien évident que la verrerie Cristallerie d'Arc fait en sorte que ces verres puissent tenir à plusieurs dizaines et centaines de lavages. C'est un avantage concurrentiel qui n'est peut-être pas lisible quand le produit est sur le linéaire, mais qu'il faut s'appliquer à faire valoir pour que la société maintienne ses positions et conserve ses parts de marché.
Voilà donc la recette, entre guillemets, des arts de la table, c'est la qualité et la longévité.
On peut dire que c'est ça. On parle de durabilité, longévité, plus élégant.
Voilà, donc dernier pôle, on va parler de produits aquatiques. Il y a une filière donc consacrée à ces produits. Alors aquatique, on pense à la pisciculture et à des dérivés ou à autre chose?
Alors oui, c'est beaucoup ça, parce qu'il ne s'agit plus de piller la mer, mais au contraire de cultiver en quelque sorte cette ressource qu'est le poisson, qui est chargé de beaucoup de propriétés, qui fait la santé des populations asiatiques. Puisque dans ce produit, il y a tout ce qui est bon, si je puis dire, pour la santé de l'individu. Là, dans le cas présent, avec Boulogne-sur-Mer, tout le monde sait que nous avons un des tout premiers ports européens de pêche. Mm-hmm. Et derrière dans les zones industrielles, une industrie de transformation, de surgélation, qui est aussi à la pointe. Mmh. Et bien entendu, que ce secteur, qui est un secteur florissant, qui est un secteur qui prospère avec l'aspect aquacole, qui est en très forte accélération aujourd'hui, je dirais qu'il parie aussi sur l'avenir, mmh. en essayant d'avoir des positions toujours plus avancées. Et dans ce secteur-là, comme dans les autres, on travaille aujourd'hui ce qui fera la prospérité du secteur dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Et donc, c'est une affaire de prospective.
Alors, c'est vrai que, par exemple, en Chine, où je suis allé encore cette année, il y a énormément d'aquaculture. Je veux dire, les gens qui mangent du poisson, pratiquement, c'est de l'élevage de poissons. Hein. Après, ce qu'on met comme nourriture aux poissons, c'est un autre débat.
Alors, c'est une autre question qui, d'ailleurs, mobilise d'autres scientifiques, parce que autour, dans notre conversation ici, on parle surtout, je dirais, de la finalité industrielle, mais vous imaginez derrière les laboratoires qui peuvent se mobiliser, et par exemple, l'INRA, pour tout ce qui est production d'aliments, IFREMER pour tout ce qui concerne le contrôle des réserves de population et l'amélioration des espèces et la surveillance des fermes aquacoles. Vous avez énormément de d'expertise qui sont mobilisées et qui travaillent aussi pour faire évoluer justement la maîtrise.
Alors, Monsieur Tordeux, un dernier mot peut-être qu'il peut concerner Cap Vallo.
À Cap Vallo, alors on change pas tout à fait de domaine. Cap Vallo, c'est une autre ambition pour la région qui est de vouloir en fait réunir les établissements de recherche pour qu'ils fonctionnent en concertation pour tout ce qui concerne la valorisation des résultats de leurs recherches. L'idée, elle est simple, hein, si chaque établissement fait avec ses moyens qui ne sont jamais suffisants pour protéger une invention, pour trouver un industriel, il y a là, je dirais, peut-être une dispersion trop forte qui ne va pas dans le sens de l'efficacité. Et l'idée, c'est de pouvoir réunir les personnes, les moyens financiers, les compétences pour avoir une meilleure appréciation des résultats et peut-être plus de capacité à les porter jusqu'aux industriels.
Voilà, donc avec dans cet ensemble 5 établissements de recherche, on va dire l'île 1, l'île 2, l'île 3, bien sûr, le oui. CHR et puis l'Institut Pasteur, si ma mémoire est bonne.
Oui, tout à fait. Hein, 5 établissements qui ont chacun une dimension recherche qui, justement, est productrice de résultats et qui ont souhaité travailler ensemble à la bonne manière de transférer ces résultats à l'industrie.
Bien, Monsieur André Tordeux, merci pour toutes ces informations.
C'est moi qui vous remercie.